Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. C'était Nazir, page 15, Daf Tetvav. Bonne écoute et bon limoud.
Ragma répond, Shani Achadama Ahmana. À propos de se rendre impur, il est dit. Akash Bokhu a dit clairement dans un pasouk, toujours dans le même paragraphe, Vetime Rosh Nizro. Littéralement, ce pasouk veut dire, et il rendra impur la tête de sa Nézirut. Il s'agit du Nazir qui est devenu impur. Le pasouk dit qu'il devra se raser, une fois qu'il s'est purifié, il devra se raser et offrir des corbanotes spéciaux du Nazir qui s'est rendu impur. En tout cas, le problème est, pourquoi est-ce que le pasouk fait dépendre l'impureté de sa tête, de ses cheveux? En de là, nous déduisons, Mishe Nizro Talulo Berosho. Le pasouk donc parle et interdit de se rendre impur, même le Nazir, dont la fin de la période de Nézirut dépend de sa tête ou du fait qu'il doit se raser à la suite de l'offrande de ses corbanotes. Nous voyons donc que tant qu'il n'a pas offert ses corbanotes et il n'a pas pu donc se raser, il n'aura pas le droit de se rendre impur et s'il le fait, il sera passible de flagellation. Par contre, pour les autres interdictions du Nazir, c'est-à-dire boire du vin et se raser, puisque le pasouk ne nous a fait pas dépendre du fait qu'il offre ses corbanotes et qu'il se rase, il est vrai qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il ne sera pas passible de flagellation, selon l'avis de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. La Gemara demande, mais t'y vais. La Gemara a posé une question à partir d'une braïta. La braïta dit clairement, Nazir shekalulo yamav, un Nazir qui a terminé la période de Nézirut, assur le galéar, il n'a pas le droit de se raser velishtotiaïm, et ni de boire du vin, ou le tamé la métim, et ni de se rendre impur pour les morts. Vim gilar veshatayin venitma la métim, et s'il s'est rasé, ou s'il a bu du vin, ou s'il s'est rendu impur pour les morts, par le contact d'un mort, harese sofeg et arbaim, il sera passible de la flagellation, donc il recevra 40 coups, c'est plutôt 39. Nous voyons donc clairement que celui qui transgresse n'importe quelle des interdictions du Nazir à l'issue de la période de Nézirut avant d'avoir offert les corbanotes, il sera passible de flagellation. Tchoufta, la Gemara dit effectivement c'est une question sans réponse contre Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Nous avons fini ici le shiur de Nazir Daf Yud Dalet. Nous commençons le shiur de Nazir Daf Tetvav à la Mishnah. Alors, nouvelle Mishnah. Hareni Nazir Lekshi Eliben, une personne qui dirait je m'engage à observer une période de Nézirut quand un fils me naîtra. Venazir me'ayom. Et en plus, je m'engage à observer une période de Nézirut de 100 jours. Il est vrai donc que son premier engagement est d'observer une période de Nézirut quand il aura un fils. Mais puisqu'il ne sait pas quand cela se passera, il doit donc commencer à observer la période de Nézirut de 100 jours. Nolad lo ben ad shivim. Si un fils lui est né jusqu'au 70e jour de cette période de 100 jours de Nézirut, lo hitsid klum, il n'a rien perdu. C'est-à-dire, comme le Tosfot l'explique, puisqu'il lui reste 30 jours ou plus de 30 jours à compléter de cette Nézirut de 100 jours, et il doit interrompre cette période de Nézirut de 100 jours pour observer la période de Nézirut qu'il doit observer pour la naissance de son fils, nous estimons que sa pensée était de ne pas observer deux périodes distinctes de Nézirut, mais plutôt que ces 30 jours comptent pour les deux périodes de Nézirut, à la fois pour compléter la période de Nézirut de 100 jours, et aussi pour la période de Nézirut qu'il doit observer pour la naissance de son fils. Par conséquent, donc, à l'issue de cette période de Nézirut de 100 jours, il se rasera les cheveux et offrira deux séries de korbanot. Il ne devra pas, donc, observer une période de 30 jours supplémentaires. C'est ça que la Mishnah voulait dire, qu'il n'a rien perdu. D'ailleurs, dans la Mishnah précédente que nous avons vue, Daf Yud Gimel Amud Bet, dans le cas où il s'était engagé à observer une période de Nézirut de 30 jours pour la naissance de son fils et une période de 30 jours supplémentaires, là la Mishnah avait dit qu'il devait observer une période de 60 jours, ce n'est que parce que la naissance du fils, de ce fils, a eu lieu après le premier jour de l'observance de la période de Nézirut. Par contre, si ce fils lui était né le jour même où il avait accepté sur lui ses deux engagements, effectivement, il aurait pu se suffire d'observer une seule période de Nézirut de 30 jours. Et cela, comme nous l'avons dit, parce qu'il doit de tout interrompre la période de Nézirut qu'il a entrepris pour lui-même pour observer celle pour la naissance de son fils. Par contre, s'il s'était engagé en premier d'observer une période de Nézirut de 100 jours, et puis d'observer aussi une période de Nézirut pour la naissance de son fils, puisqu'il ne doit pas interrompre sa Nézirut de 100 jours, il doit donc observer deux périodes distinctes, une de 100 jours et l'autre de 30 jours. Deuxième point, on ne peut dire cela qu'il a voulu qu'une seule période de Nézirut compte pour deux périodes, ce n'est que dans le cas où le premier engagement donc prendra effet dans une date qui est inconnue, parce que cela dépend de la naissance de son fils. Par contre, si la date est connue, c'est-à-dire par exemple s'il s'était engagé à observer une période de Nézirut dans 20 jours et puis observer dès maintenant une période de Nézirut comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, là nous ne dirons pas qu'il a voulu qu'une seule période compte pour deux. La Mishnah continue. L'Achar Shivim, si ce fils lui naît après 70 jours de cette période de 100 jours qu'il est en train d'observer, donc il lui reste moins de 30 jours jusqu'à la fin de cette période de Nézirut, Soter, selon le Tosfot, nous effaçons le mot Shivim. Il annule. En fait, comme le Tosfot l'explique, il n'annule pas vraiment cette période de Nézirut, mais plutôt il interrompra cette période de Nézirut de 100 jours. Il observera par la suite donc une période de Nézirut pour la naissance de son fils de 30 jours, et après il complétera sa période de Nézirut de 100 jours, et seulement à la fin de ces deux périodes de Nézirut, il se rasera et offrira deux séries de korbanot. Et cela puisqu'il reste moins de 30 jours à compléter, s'il se rase après avoir observé la période de Nézirut pour son fils, il ne pourra plus se raser, il ne pourra plus compléter la période de Nézirut parce qu'il lui reste moins de 30 jours. La Mishnah conclut, chez Enti Glachat Pachot Mishloshim Yom, on ne peut pas se raser à l'issue d'une période de Nézirut si les cheveux ont poussé moins de 30 jours. De sorte explique, en fait, ce n'est pas ça que la Mishnah voulait dire, mais plutôt un engagement minimal de Nézirut est de 30 jours. Par conséquent, quand il s'est engagé à observer une période de Nézirut pour la naissance de son fils, c'est au moins une période de 30 jours. S'il lui reste moins de 30 jours, son intention était donc d'interrompre la Nézirut et non pas que les jours restants comptent pour deux périodes et par la suite il compléterait ce qu'il manque pour la Nézirut pour la naissance de son fils, puisque cela pourrait prêter à confusion. La Gemara explique. Amar Rav, Yom Shivim Ole Lekan ou Lekan. Si un fils lui naît le 70e jour, ce jour comptera pour deux. C'est-à-dire, nous compterons qu'il a observé 70 jours de la période de Nézirut de 100 jours qu'il s'est engagé à observer. Et il doit observer aussi, puisqu'il doit interrompre cette Nézirut, donc une période de 30 jours pour la naissance de son fils. Ces 30 jours commencent à compter à partir du 70e jour. Finalement, donc, cette période de 30 jours se termine au bout de 99 jours. Et le 100e jour, qui se trouve être aussi le 31e jour qui suit la période de Nézirut pour la naissance de son fils, il pourrait se raser et offrir les korbanot. Il gagnerait donc un jour. En général, quand une personne s'engage à observer une période de Nézirut de 100 jours, il ne peut se raser et offrir les korbanot que le 101e jour. La raison pour laquelle il peut le faire, c'est qu'en fait, comme nous l'avons expliqué plus haut d'Avav, la raison pour laquelle on ne peut se raser que le 101e jour, ce n'est que Midérabanan. Minatora, une fois qu'il a débuté le 100e jour, il peut se raser le jour même. Par conséquent, dans ce cas où le 100e jour se trouve être aussi le 31e jour de la période de la Nézirut de son fils, cela ne prêtera pas à confusion. Les Chachamim lui ont permis donc de se raser et d'offrir le korbanot le 100e jour. Alors, Gmar demande maintenant, voyons voir notre Mishnah. Nolad lo ad shivim lo hipsid klum. La Mishnah nous dit, si son fils lui naît jusqu'au 70e jour de la période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il n'a rien perdu. Alors, Gmar demande, dis, salkadata chole lekan ou lekan. Et si tu penses que le 70e jour ou le jour de la naissance de son fils compte pour deux, c'est-à-dire il compte pour la fin de la période qu'il est en train d'observer, et aussi comme le premier jour de la période de Nézirut qu'il doit observer pour la naissance de son fils, Idgur et Midgar, il a donc gagné un jour. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous lui dit simplement qu'il n'a rien perdu? En fait, la Mishnah... Et là, la Gemara répond, Bedin hu de lo litne ad shivim. Il est vrai que la Mishnah n'aurait pas dû dire si ce fils lui naît jusqu'à ce qu'ait passé 70 jours de cette période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il n'a rien perdu. La Mishnah aurait dû dire qu'il a gagné. Ou Mishum de Katane Sefa Achar Shivim Soter. Nous sautons le mot Shivim comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Mais puisque dans la fin de la Mishnah, il est écrit que si ce fils lui naît après qu'il ait passé 70 jours de la période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il doit interrompre cette période de Nézirut, observer la période de Nézirut pour la naissance de son fils, puis après compléter les jours qui restent. Donc il a finalement perdu parce que la naissance de son fils était tardive. Katane Recha Shivim, c'est pourquoi au début de la Mishnah, il a été enseigné que si ce fils lui naît avant qu'il ait passé 70 jours de la période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il n'a rien perdu. Tashma Misefa. La Gemara nous apporte une preuve de la fin de la Mishnah. Nolad achar shivim soter. Nous sautons le mot shivim. Si ce fils lui naît après qu'il ait passé 70 jours de la période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il interrompra sa Nézirut, il observera une période de Nézirut de 30 jours pour la naissance de son fils, puis complétera les jours manquants. Nous comprenons donc de la Mishnah que même si ce fils lui naît le 71e jour, il doit interrompre sa Nézirut et observer Nézirut pour la naissance de son fils, puis compléter les jours manquants. Alors que selon l'opinion de Rav, puisque le jour de la naissance compte pour 2 jours, même si ce fils lui naît le 71e jour, puisque les 29 jours manquants plus le jour de la naissance font 30 jours, finalement il ne devrait rien perdre et on devrait dire que les jours qui restent comptent pour 2 périodes. Agma répond, Maï Achar, qu'a voulu dire la Mishnah quand elle dit après le 70e jour, Achar Achar. La Mishnah a voulu nous parler du surlendemain du 70e jour. Alors la Gemara demande, Aval Achar Mamash, Maï. Alors si c'est comme ça, nous pouvons comprendre donc que le lendemain du 70e jour, quel est le din? Hachinami de l'Osatar. Il ne doit donc pas interrompre sa période de Nézirut, puisque les jours qui restent compteront pour 2 périodes. Yachi, si c'est comme ça, Maï Riyadetane Noladat Shivim, Loepsikloum. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit que si le fils lui naît jusqu'à ce qui est passé 70 jours de la période de Nézirut qu'il est en train d'observer, il n'a rien perdu? Afilu achar shivim nami, ha'amart lo satar. Même si il est passé plus de 70 jours, même s'il est passé 71 jours, aussi, nous disons qu'il n'a rien perdu. Donc, ela shmamina achar mamash. Nous pouvons donc déduire de la Mishnah quand la Mishnah nous dit qu'après les 70 jours, il doit interrompre sa Nézirut, il s'agit même du 71e jour, même tout de suite après le 70e jour. Finalement, nous pouvons donc comprendre de là que le jour de la naissance ne compte pas pour 2 jours. Il est inconcevable de dire que le jour de la naissance, qui fait partie des 100 jours qu'il est en train d'observer, puisse compter pour 2 jours, et que par ce stratagème, il lui suffirait de compter 99 jours. Ce n'est pas comme le cas où il doit observer 2 périodes de Nézirut successives, où le jour où il termine la première période de Nézirut, il commence tout de suite une deuxième période de Nézirut, et finalement aussi ce jour compte pour 2 jours, comme nous l'avons vu plus haut d'Avav. Mais là, puisqu'il s'agit de la même période de Nézirut, on ne peut pas donc couper un jour en deux. Vechen matnitin l'Erav Shmamina. Et nous pouvons donc déduire que la Mishnah ne suit pas l'opinion de Rav. Alors la Gemara demande, Verav Keman Amra Leshmate. Finalement, quelle est l'opinion que Rav suit, l'opinion de quel Tana suit-il? Il est Maka Abashaoul, si tu veux dire que Rav suit l'opinion d'Abashaoul, d'Etnan, parce qu'il a été enseigné, en fait il s'agit d'une braïta concernant le loi de deuil. Nous savons que quand un proche disparaît, il y a plusieurs lois concernant le deuil. Il y a d'abord une période de deuil intense de 7 jours, pendant laquelle il ne se chaussera pas, il ne cohabitera pas avec sa femme, il ne pourra pas se changer d'habit, ni se raser les cheveux, puis suit une période de 3 semaines jusqu'à 30 jours qui suivent la disparition de ce proche, pendant lequel il n'aura pas le droit de se raser ni de se laver les habits. Alors la Seth Braïta nous dit Hakover et Meto Shlosha Yamim Kodem la Regel, celui qui enterre son mort, donc un proche parent, 3 jours avant la fête, Batla Mimenu Gzera Tshiva, sera annulée cette loi de deuil intense de 7 jours. Le Tana de Seth Braïta pense qu'il doit observer une période minimum de 3 jours avant la fête, parce que c'est une période de pleurs qui est un deuil plus intense, avant que soit annulé le deuil à l'arrivée de la fête. Pour la halakha, nous savons que même s'il débute son deuil 1 heure avant la fête, ce deuil sera annulé par la fête. La Braïta continue. Shmona Amim Kodem la Regel, si il enterre un proche parent 8 jours avant la fête, finalement donc, après, non seulement il a observé une période de deuil de 7 jours, mais il a débuté la période suivante de 3 semaines. Batla mimenu gzerat shloshim, sera annulée la loi de deuil plus léger de 30 jours, ou moutar le saper erev aregel, il aura le droit donc de se raser la veille de la fête, vimlo siper erev aregel, et s'il ne s'est pas rasé la veille de la fête, il ne tenait pas compte de l'honneur de la fête, assur le saper achar aregel, il n'aura pas le droit de se raser après la fête, en d'autres termes, il devra continuer à observer ce deuil léger après la fête jusqu'à 30 jours, parce qu'il ne l'a pas interrompu à l'arrivée de la fête.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tetvav Amud Bet. Abba Shaul Omer, afilu lo siper kodem aregel, même s'il ne s'est pas rasé avant la fête, il n'a pas interrompu donc ce deuil léger avant la fête, mutar le saper achar aregel, ce deuil a été interrompu, il pourra donc se raser après la fête. Pourquoi ? Shekeshem shemitzvat shlosha mevatel et gzerat shiva, de la même manière que la mitzvah de 3 jours, c'est-à-dire une fois qu'il a observé les 3 jours, les 3 premiers jours de deuil, mevatel et gzerat shiva, cela annule le deuil intense de 7 jours à l'arrivée de la fête, car mitzvat shiva mevatel et gzerat shloshim. Alors là aussi, le fait d'avoir observé une période de deuil de 7 jours, cela annulera le deuil léger de 30 jours à l'arrivée de la fête. Nous constatons ici que, selon l'avis de Abba Shaul, il n'a pas besoin d'observer ou de commencer à observer un jour de la période de 3 semaines qui suit la période de deuil intense, mais une fois qu'il a observé la période de deuil de 7 jours, déjà nous considérons qu'il a entamé la période de 3 semaines qui suit. Finalement, donc, dès que la fête arrive, ce deuil léger sera annulé. Maïtama d'Abba Shaul, quelle est la raison de Abba Shaul? Pourquoi est-ce qu'il discute avec le Tana Kama, pensant qu'il n'a pas besoin de compter un jour de cette période de deuil léger qui suit la période de 7 jours? Il n'a pas besoin d'être donc dans le 8e jour, la veille de la fête. Lav mishum de kasavar, shvi, ole, lekan ou lekan. N'est-ce pas que c'est parce qu'il pense que le 7e jour de ce deuil compte pour les deux, c'est-à-dire à la fois pour la période de deuil intense de 7 jours et aussi pour la période de 3 semaines qui suit, la période des 30 jours. Nous voyons donc que Abba Shaul pense aussi qu'un jour peut compter pour 2 périodes. Nous ne dirons cependant pas que selon l'avis d'Abba Shaul, il se suffirait d'observer une période de deuil de 29 jours, et cela parce que nous savons qu'il doit observer une période de deuil de 30 jours, nous l'apprenons de Nezirut. Alors puisque à tous les coups, cette période de 30 jours comprend aussi le 7e jour du deuil intense, nous comprenons donc qu'il doit observer cette période de deuil de 30 jours, le 7e jour de ce deuil inclus. En d'autres termes, finalement, si nous décomposons cela, en fait, selon l'avis d'Abba Shaul, il faudrait théoriquement observer une période de deuil de 31 jours. Seulement le 7e jour compte pour 2. Nous dirons donc que Rav pense la même chose, et aussi, de là, il a tiré que la halakha serait que dans l'autre cas de la Mishnah, où il observe 2 périodes de Nezirut qui se superposent, nous dirons que le jour où débute la 2e période de Nezirut sera coupé en 2. Il sera compté à la fois comme jour complétant la 1ère période de Nezirut qu'il est en train d'observer, et aussi comme le 1er jour de la 2ème période qu'il est en train d'observer. Arirma refute, Dilma ad kan lo kamar Abba Shaul el Abba Avelut Shiva de Rabbanan. Peut-être que nous dirons que Abba Shaul a dit ce principe qu'un jour peut compter pour 2 périodes. Ce n'est que quand il s'agit d'une avelut de 7 jours qui est midera banan, aval benazir do raita lo. Par contre, quand il s'agit du nazir dont l'observance est minatora, peut-être qu'il ne le dira pas. Il est vrai que finalement, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, que le jour qui est en jeu, c'est-à-dire le jour qu'il est en train de sauter, c'est juste midera banan, puisque minatora, il aurait pu théoriquement se raser et offrir le korbanot le 30e jour, mais puisque l'observance même du nazir est minatora, il est possible que Abba Shaul soit plus strict. C'est pourquoi la Gemara dit « Ela Rav d'Amak Rabbi aussi ». Nous dirons que Rav pense comme Rabbi aussi. D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta concernant les lois de Nida. Alors pour comprendre cette braïta, nous allons d'abord introduire les lois de Nida telles qu'elles sont décrites dans la Torah. Mina Torah, une femme qui débute une période de menstruation, elle sera impure pendant 7 jours. Cela indépendamment s'il a eu un écoulement pendant ces 7 jours ou non. À l'issue de ces 7 jours, elle se trempera dans un mikvé et elle sera permise à son mari, elle sera pure. Si pendant les 11 jours, un des 11 jours qui suivent, elle a de nouveau un écoulement sanguin, elle ne peut pas devenir Nida. À ce moment-là, elle deviendrait Zava. Alors, les lois sont comme suit. Si jamais elle a un écoulement pendant un jour ou une partie d'une journée, elle devra observer un jour de pureté. C'est ce qu'on appelle Shomer et Yom Keneged Yom, celle qui garde un jour de pureté, donc contre un jour d'impureté. L'alakha est que, une fois qu'elle a fait son Hefsek Tahara, c'est-à-dire une fois qu'elle s'assure à la tombée de la nuit qu'elle n'a plus d'écoulement et elle voit que toute la nuit et le début du lendemain matin, elle n'a plus d'écoulement, elle pourra se tremper dans un mikveh et elle sera considérée comme pure. Mais, selon l'avis des Chachamim, si jamais elle a à nouveau un écoulement le second jour, le jour de pureté, même après avoir été trempée dans un mikveh, elle sera considérée à nouveau impure. Elle sera considérée comme celle qui a vu deux jours d'écoulement sanguin pendant les 11 jours qui suivent la période de menstruation. Celle-ci aussi gardera un jour de pureté pour ces deux jours. Elle s'appelle aussi Shomer et Yom Keneged Yom. Donc le troisième jour, elle devra observer un jour de pureté. Le matin, elle pourra déjà se tremper dans un mikvé et être considérée comme pure. Si pendant cette troisième journée aussi, elle a un écoulement, là, elle a vu donc trois jours consécutifs. Pendant trois jours consécutifs, elle a eu un écoulement. Elle est considérée comme étant Zava. À ce moment-là, dès que cet écoulement s'arrêtera, elle devra observer sept jours de pureté. À l'issue de ces sept jours de pureté, elle se purifiera dans un mikvé. Elle devra aussi offrir des korbanot. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, les chachamim aujourd'hui ont changé la halakhot et ont décrété que n'importe quelle femme qui a un écoulement, même d'une goutte de sang, elle devra observer sept jours de pureté. En tout cas, concernant cette loi de Shomer et Yom Keneged Yom, celle qui garde un jour de pureté, il y a deux conditions. D'abord, le jour où elle a eu un écoulement, elle ne peut pas l'observer comme étant un jour de pureté. Elle devra donc, au début de la journée suivante, c'est-à-dire juste avant la tombée de la nuit, vérifier qu'elle n'a plus d'écoulement, attendre le lendemain matin. À ce moment-là, donc, elle est considérée comme avant ayant observé une partie d'une journée de pureté. Elle pourra se purifier et être déclarée pure. Mais nous reprécisons encore, si jamais elle a de nouveau un écoulement le second jour, donc le jour où qu'elle a observé en tant que jour de pureté, elle est considérée de nouveau impure rétroactivement. Elle est considérée comme la femme qui a vu deux jours d'écoulement sanguin. Maintenant, cette braïta concerne l'avis de Rabbi Yossi qui est en désaccord avec une partie de ces lois que nous avons décrites. Alors, Rabbi Yossi Omer, Shomer et Yom Keneged Yom, celle qui observe un jour de pureté contre un jour d'impureté, Sheshartu Vezarku Alea Beshenishela, dont on a fait la shrita d'un korban pesach et on a aspergé le sang de ce korban pesach le second jour à partir de son écoulement, c'est-à-dire donc le jour qu'elle observe en tant que jour de pureté, Vachakar Ra'ata, et après s'être purifiée dans un mikveh, elle a de nouveau eu un écoulement. Harezu Eno Ochelet, elle ne pourra pas consommer du korban pesach parce qu'elle est impure. Uptura Mila Asot Pesach Sheni, par contre, elle sera exemptée d'offrir à nouveau un deuxième korban pesach, comme celui qui est impur au moment de l'offrande du korban pesach, qui lui doit offrir ce qu'on appelle le korban pesach de rattrapage un mois après, le 14 Iyar. C'est ce qu'on appelle Pesach Sheni. Alors là, dans la Breta, il est écrit qu'elle est exemptée d'offrir ce korban pesach, apparemment parce que l'offrande de ce korban pesach a été effectuée quand elle était pure, donc finalement, elle est exemptée par ce premier korban pesach. Elle n'a pas besoin donc d'offrir un second. Alors la Gemara demande, Maïtam ad Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'elle est exemptée d'offrir un second korban pesach? Puisque finalement, quand elle a de nouveau eu un écoulement le jour qu'elle observe en tant que jour de pureté, il se retrouve que rétroactivement, elle est impure. Lav mishum de kasava miktsatayom kekulo, n'est-ce pas que Rabbi Yossi pense qu'une partie de la journée est considérée comme une journée entière? Et cela, comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire non seulement qu'une partie de la journée est considérée comme une partie de la journée, mais la journée se coupe en deux. Donc, quand elle a observé une partie de la journée en tant que jour de pureté et elle s'est purifiée, une journée est passée. Si à nouveau elle a un écoulement à la fin de la journée ou au courant de la journée, ceci est considéré comme un autre jour et elle ne devient pas impure rétroactivement. Selon le Gaon, nous sautons les deux mots suivants, Mishum de Kassavar, Mikanula Baou Metame, parce que nous pouvons dire donc que Rabbi aussi pense qu'une femme qui a un écoulement le jour qu'elle observe en tant que jour de pureté, elle ne devient impure qu'à partir de ce moment. Elle ne devient pas impure donc rétroactivement. Nous dirons donc que Rav pense comme Rabbi aussi, et concernant les lois de Nezirut aussi. Concernant celui qui s'est engagé à observer deux périodes de Nezirut, une période de Nezirut de 30 jours à la naissance de son fils, et aussi une autre période de 100 jours. Nous avons dit dans la Mishnah que s'il a entamé la période de 100 jours, et au milieu un fils lui est né, s'il lui reste moins de 30 jours à compléter, alors cette période qui lui reste, les 30 jours suivants, compte comme deux périodes de Nezirut. Rav avait dit là-dessus que cet enfant qui était né le 70e jour est considéré comme étant deux jours. Le début de la journée est considéré comme le 70e jour de la période de Nezirut, et la fin de la journée est considérée comme étant le premier jour de la période de Nezirut observée pour la naissance de son fils. Finalement, donc, comme nous l'avons vu dans la Gemara précédemment, il gagnerait un jour. Là aussi, nous voyons que le Rav pense comme le principe qu'une partie de la journée est considérée comme une journée entière, et une journée peut ainsi être coupée en deux. Alors la Gemara demande, Omi, ça va Rabbi aussi Achi, est-ce que Rabbi aussi pense comme ça? Vatania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi aussi Omer, Zav Bal Shtereyot. Il s'agit d'un Zav devenu impur à la suite d'un écoulement non spermal. Alors pour celui-ci, s'il a un écoulement, il peut se purifier dans le mikvé et reste pur. S'il a deux ou trois écoulements, il deviendra impur et devra observer 7 jours de pureté. La différence entre celui qui a eu deux écoulements ou trois écoulements est que celui qui a eu deux écoulements doit observer 7 jours de pureté mais n'a pas besoin d'offrir de korban, alors que celui qui a eu trois écoulements doit à la suite de la période de pureté offrir un korban. Alors, Rabbi aussi dit que le Zav Bal Shteriyot, qui a eu deux écoulements, il doit donc simplement observer 7 jours de pureté. Shechartu v'zarku alav b'shvi, dont on a fait la shrita d'un korban pesach et aspergé le sang le 7e jour de la période de pureté, et après qu'il s'était trempé dans le mikvé. V'chen shomer et yom keneged yom, celle qui observe un jour de pureté contre un jour d'impureté qu'elle a eu. Shechartu v'zarku alav, dont on a fait la shrita d'un korban pesach et on a aspergé le sang quand il s'était purifié, Ve'achakar Ra'u, et après, au courant de la journée, ils ont eu un autre écoulement. Afalpi Shemetam'im Mishkavu Moshav Lemafrea, bien que nous les considérons impurs rétroactivement, au point de dire que les chaises sur lesquelles ils s'étaient assis, ou bien les lits sur lesquels ils s'étaient couchés, sont aussi impurs, rétroactivement, Pturim Ila Sot Pesarcheni. Ils sont quand même exemptés d'offrir un Pessah Sheni de rattrapage. Nous voyons bien donc que l'avis de Rabbi aussi est clairement qu'une femme, par exemple, qui a eu un autre écoulement le jour qu'elle observe en tant que jour de pureté, devient impure rétroactivement. Agmar répond, Maïle Mafrea Miderabana. Qu'est-ce que la Braïta voulait dire quand elle dit qu'ils sont impurs rétroactivement? C'est juste une Khumra Miderabana. Hachinami mistabra. D'ailleurs, c'est logique de comprendre ainsi la braïta, dit Salkadatar Midoraita, parce que si tu penses que c'est Mina Torah, qu'ils sont impurs rétroactivement, Amaib Turim Ilasot Pesach Sheni, pourquoi est-ce que ils sont exemptés d'offrir un Korban Pesach de rattrapage, puisque finalement il s'avère qu'ils étaient impurs au moment de l'offrande du Korban Pesach, ils ne se sont pas rendus quittes donc de cette mitzvah, ils devraient offrir un Korban Pesach de rattrapage. Donc nous sommes obligés de dire que la vie de Rabbi aussi est qu'il pense qu'une partie de la journée est considérée comme une journée entière, mais ils sont quand même impurs, rétroactivement, midera banan. La Gemara refute cette preuve. Leolam emalecha tuma doraita. Toujours pourrais-je te dire qu'ils sont considérés comme étant impurs, rétroactivement, minatora. Par conséquent, donc, Rabbi aussi n'est pas d'accord avec le principe qu'une partie de la journée soit considérée comme une journée entière, tel que Rav le comprend. Mais la raison pour laquelle ils sont exemptés d'offrir un korban pesach de rattrapage, parce que tehom deziva hitiru. Littéralement, le gouffre de la touma de Zav, les chachamim l'ont permis. C'est-à-dire, le gouffre est une image d'une touma qui est inconnue d'aucun être humain. une loi a été transmise à Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï, et que si quelqu'un était impur au moment de l'offrande du Korban Pessah, il s'agit de Touma, par le contact d'un mort, mais d'une manière que personne n'était au courant de cette impureté, il s'agissait d'un mort qui était enfoui sous la terre, personne ne connaissait son existence, il s'est rendu quitte de la mitzvah d'offrir le Korban Pessah. Le chidouche ici de Rabbi aussi est que même pour une Touma de Ziva, que personne ne pouvait être au courant, puisque finalement ce n'est que par la suite qu'il s'avère que rétroactivement il était impur, aussi cette même loi s'applique. Par conséquent, au moment où a eu lieu l'offrande du Korban Pessah, ils étaient considérés comme étant purs. C'est que par la suite qu'il s'est avéré qu'ils étaient impurs rétroactivement, ils se sont rendus quittes de la mitzvah de l'offrande du Korban Pessah. Par conséquent, ils ne doivent donc pas offrir un Korban Pessah sheni de rattrapage. La Gemara continue. Ve'av Rabbi Hoshaya savar le mafria mid rabbanan. Et même Rabbi Hoshaya pense aussi que la vie de Rabbi aussi est que la celle qui observe un jour de pureté contre un jour d'impureté et qui voit à nouveau un écoulement ce jour-là est impure rétroactivement que mid rabbanan de Tanya. Parce qu'il a été enseigné. Rabbi Hoshaya Amar dit, Haroe zav bishvi selo, un zav qui aurait eu un écoulement le septième jour de pureté, Soter et Chelfanav, il recommence à nouveau tous les sept jours de pureté, parce qu'il faut sept jours consécutifs de pureté. Ve'amar le Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan lui a dit là-dessus, l'onistor et la yomo, on n'a qu'à dire que cet écoulement que cet homme a eu le septième jour de sa période de pureté n'annule que le dernier jour. Alors la Gemara demande, Manafchar, qu'est-ce que tu veux dire? En d'autres termes, il y a une contradiction dans ce que tu dis. Si tu veux dire que cet écoulement annule quoi que ce soit, kulhu satar. Alors cet écoulement devrait annuler tous les sept jours de pureté, puisque nous voyons qu'il n'y a pas sept jours consécutifs. Ilo satar, si tu veux dire que cet écoulement n'annule pas parce qu'il est considéré comme étant après la période de pureté, l'onistor veloyomo, il ne devrait même pas annuler ce dernier jour. Et la Emma, c'est pourquoi nous dirons que ce que Rabbi Yochanan a voulu poser comme question, l'onistor veloyomo, on n'a qu'à dire que cet écoulement qui a eu lieu le septième jour de pureté ne devrait pas annuler même pas son jour, c'est-à-dire même pas ce dernier jour.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.